c'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.
La rentrée de l'Institut européen des musiques juives, c'est dans Ces Nouveaux, ça m'intéresse. Et pour l'occasion, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir Hervé Rothen, qui est ethnomusicologue et directeur de ce fameux Institut européen des musiques juives, également réalisateur et présentateur sur notre antenne de l'émission que vous retrouvez une fois par mois, le mardi à 21h, Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour Hervé Rothen.
Bonjour Léa.
Merci d'être avec nous Hervé.
C'est un plaisir.
C'est un plaisir partagé. Et là, vous allez essayer de glaner quelques auditeurs du matin pour qu'ils viennent un peu voir ce qui se passe le mardi, un mardi par mois, à 21h. On apprend énormément de choses dans vos émissions, Hervé, sur les musiques juives. Il faut bien dire ça au pluriel. Hein. Ce n'est pas la musique juive, mais bien les musiques juives. Alors, tout au long de l'émission, on va bien sûr d'abord commencer par l'Institut, son histoire, quand est-ce que c'est né, quelle est la vocation de cet Institut, les activités, etc. Mais on va surtout aborder le thème des musiques juives, sa définition, évidemment, et puis comment les musiques juives ont évolué, comment elles ont influencé les autres musiques, comment les musiques du monde ont influencé elles-mêmes aussi la musique juive. Enfin, on va faire un voyage dans le temps avec vous et puis l'émission sera truffée d'extraits musicaux que vous avez choisis, Hervé.
Absolument.
Alors, première question, cet Institut européen, racontez-nous un peu son histoire et puis surtout dites-nous quelle est sa vocation.
Alors, la vocation, tout d'abord, c'est bien évidemment de rassembler ces musiques juives, ce patrimoine qui est un patrimoine immatériel, mais qui aujourd'hui est de plus en plus important. Vous savez, pendant des années, on s'est intéressé seulement au patrimoine matériel, des pierres, des traces. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait dans la mémoire des tas de traces qui étaient éphémères et qu'il fallait recueillir si on ne voulait pas qu'elles s'envolent avec les neshamot, les âmes des gens. Donc, on a recueilli ces musiques, on les recueille. Ça peut être des traditions orales qui ont été fixées, par exemple, une qui nous amène son mari qui est en train de chanter un kaddish ou même un air traditionnel sur une cassette.
Ah oui.
Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vient nous apporter une cassette sur laquelle il est marqué Pessar Papa. Vous voyez, c'est extrêmement varié.
C'est
très émouvant. Et où ça peut être aussi des documents, disques, partitions qui ont été édités, imprimés, qu'on ne trouve plus forcément aujourd'hui. Donc nous recueillons ce patrimoine, nous le préservons, mais nous le mettons surtout à la portée de tous. C'est-à-dire que nous faisons un véritable travail de numérisation, de catalogage et de mise en ligne, donc évidemment selon le respect des copyrights, hein, des lois sur le copyright, mais de mise en ligne de ce patrimoine afin que tout le monde puisse y retrouver les siens. Comme on
dirait. C'est ça, vous protégez finalement toute cette mémoire auditive et toute cette culture. Et donc, c'est ouvert au public, comme vous le dites. Et ça fait combien d'années que vous faites ça ?
Alors là, ça fait longtemps.
Ouais.
L'Institut européen des musiques juives est né en 2006. Alors, en 2006, il s'appelait à l'époque le Centre français des musiques juives.
Oui.
Il a été créé par l'action de trois institutions, dont une très importante, la Fondation du judaïsme français. J'ai personnellement commencé à travailler à la Fondation du judaïsme français en 2000 à peu près, avec Nelly Hanson, qui était alors directrice à l'époque.
Pour ce même travail
Pour
d'archive.
Ce travail, Nelly Hanson était une historienne et elle avait conscience justement de la valeur des choses qui se perdent et de ce qu'il faut conserver. Et donc, elle m'avait engagé pour faire un travail sur ce patrimoine musical qui était à l'époque encore peu préservé, peu conservé. Les gens n'avaient pas la conscience forcément que c'était quelque chose d'éphémère.
Mmh.
Et donc, j'ai commencé par faire un travail déjà de collecte, un travail de recensement de ce patrimoine.
De fourmis,
parce que c'est tellement énorme.
Ouais.
Tellement énorme. Et puis, ensuite, on a commencé à accumuler de la matière sonore. Les gens sont venus nous apporter des partitions, des disques. Et puis, entre-temps, j'ai pris aussi la suite du professeur Israël Adler, qui était un grand professeur à l'Université de Jérusalem, directeur de la phonothèque de Jérusalem, du Centre de musique juive de Jérusalem, et qui avait créé en France une association qui s'appelle toujours Yuval, qui, dans son coin, avec ses maigres moyens, œuvrait déjà à préserver une partie de ces traditions.
Est-ce que l'Institut européen est le seul en Europe ?
Alors,
et dans le monde, peut-être ?
C'est pas le seul, c'est le plus important en Europe.
D'accord.
Le plus important en termes de documents conservés, en termes de nombre de personnes qui travaillent, de moyens financiers. Voilà, dans le monde, évidemment, on trouve aux États-Unis des instituts qui font un travail plus ou moins similaire, mais pas forcément aussi global. C'est-à-dire qu'on a le YIVO, par exemple, qui travaille sur le Yiddish, mais pas uniquement la musique. Sur la partie musicale, j'en parlerai peut-être plus tard du YIVO.
Oui.
Puis on a après, bien sûr, des instituts qui sont des instituts universitaires, qui sont au sein de bibliothèques, notamment dans le cadre des universités américaines. Mmh. Et puis en Israël, bien sûr, on a aussi un centre de musique juive.
Oui, ce sont des entre guillemets, des discothèques, enfin des audiothèques, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça.
Oui, ce sont des médiathèques en réalité,
médiathèques,
parce
qu'on
a tous les médias aujourd'hui. On a aussi bien, pas uniquement des sons, on a des partitions, mais on a aussi des vidéos, bien sûr, et puis des archives, du papier, quoi.
Oui. Alors concrètement, quand on a envie de rechercher un air qu'on connaît de son enfance, par exemple, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils soient séfarades ou ashkénazes, comment on fait ? On va vers vous et...
Alors, il y a un téléphone à retenir ou un site internet, les deux en même temps. Donc, le téléphone, c'est le 01 45 82 20 52, donc 45 82 20 52. Et il y a un site très facile à retenir, vous prenez les initiales, c'est iemj.org. Donc,
oui.
Et là, vous avez une mine de renseignements. Vous pouvez y passer des centaines et des centaines d'heures, vous avez plus de 3000 documents en musique en ligne, des playlists. Vous avez de quoi vraiment, si vous ennuyez, aller là-bas. Le seul souci, c'est qu'il faut s'arrêter, notamment avant Shabbat, et repartir après, mais il n'y a pas de souci.
Donc là, vraiment, c'est un travail extrêmement important de mémoire. Alors, justement, cette musique juive, quand vous décidez au départ de l'archiver, il va falloir déjà savoir ce que vous archivez. C'est quoi ? Quelle est la définition, votre définition de la musique juive ?
Alors, comme vous l'avez dit, il n'existe pas une musique juive, mais des musiques juives. C'est comme si vous parlez de cuisine, vous ne dites pas la cuisine, mais vous dites les cuisines, parce qu'il y a les cuisines du monde entier, elles sont toutes différentes et tout. Et en même temps, il y a des influences entre chacune de ces cuisines, et de la même façon, entre les musiques, il y a des influences.
Mmh.
Donc, les musiques juives sont exactement à l'image du judaïsme, c'est-à-dire plurielles, variées, jamais là où on les attend finalement. Et en fait, vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction qu'elles ont influencé d'autres musiques, mais elles ont été aussi également beaucoup été influencées par d'autres musiques. C'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange des musiques.
Tout à fait. Mais ces musiques juives, est-ce qu'elles sont émises, bien sûr, par les communautés juives liées à leur religion, ou bien uniquement parce qu'elles ont été composées, créées par des juifs, mais dans leur quotidien est-ce que c'est forcément lié à la religion ?
Alors ça, c'est la fameuse définition, on me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'une musique juive ? Qu'est-ce que c'est que les musiques juives ? Alors, je n'ai pas de définition standard, ça fait maintenant 30 ans que je travaille dans ce domaine des musiques juives, et ça fait 30 ans que j'ai cette éternelle question qui n'aura jamais vraiment de réponse, mais j'ai quand même des éléments de réponse. Alors si vous me permettez, parce qu'on a peu de temps, pour dire très rapidement les choses, c'est pas uniquement lié à la religion, même si la religion est un point d'ancrage très fort, puisque pendant très longtemps, on ne pouvait pas être juif sans être religieux. Mais voilà, depuis l'émancipation, depuis tout ça, il y a eu des tas de musiques qui se chantaient dans les foyers, les berceuses, etc., mais qui étaient quand même liées à une vie juive. Donc, une musique, je pense, d'abord, j'ai une seule définition, ce que je dis souvent, c'est qu'une musique ne naît pas juive, elle le devient.
Mmh.
Et c'est important parce que de la même façon que nous, même si on est issu d'une famille de parents juifs, c'est pas, on a beau avoir des parents juifs, mais on le devient au fur et à mesure de notre éducation. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
On est peut-être dans une famille juive, mais si on ne travaille pas, on n'approfondit pas notre judaïsme, notre identité juive, on ne sera pas vraiment juif. C'est pareil pour la musique, c'est-à-dire qu'une musique peut être prise d'ailleurs, hein, et puis le fait qu'elle soit utilisée dans un contexte juif, dans une synagogue pour illustrer un air, prenez les chansons d'Enrico Macias, prenez des tas d'autres chansons, elles vont devenir juives parce qu'elles vont être utilisées pour supporter les paroles d'une prière.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la musique, c'est un langage universel qui appartient finalement à tout le monde et c'est celui qui va la détenir ou qui va la divulguer, la transmettre, qui va lui donner un peu sa qualité, son identité à cette musique.
C'est son usage finalement, c'est l'usage qu'on fait de cette musique qui la rend juive.
Alors, si je vous demande de dater l'apparition de la musique juive, vous allez me dire encore, oh là là, ça c'est impossible de le faire.
Non,
depuis que l'homme existe, peut-être même.
En tout cas, depuis que le peuple juif existe, oui. Ça c'est certain.
Oui. Ah, oui. Donc, alors vous le disiez, cette musique juive, elle n'est pas forcément, mais au départ, elle est quand même liée à la religion. Est-ce qu'il y a eu une utilité particulière à l'air, à la mélodie dans les prières? Est-ce que c'est une manière aussi de faciliter ou d'aborder la religion plus facilement et de permettre son accès plus facile à tout le monde?
Alors au début, la musique dans la religion, dans les premiers, tout ce qu'on a comme trace de musique dans les premiers textes religieux, je pense notamment bien sûr à la cantillation biblique, à la psalmodie, la récitation des psaumes et tous les prières de base, la musique est un aide-mémoire. C'est juste, elle porte le texte. En fait, quand on parle, il y a une musique dans notre voix. Mmh. Et cette musique, on ne s'en rend pas compte, mais la fin des phrases, par exemple, souvent baisse. Alors que, vous voyez, comme pour attirer, on module notre voix. La musique n'est rien qu'une modulation qui suit et qui souligne le sens du texte. Et c'est dans cette direction qu'elle a été utilisée au départ. La cantillation, la psalmodie, ce n'est pas de la musique. C'est plus une façon de dire le texte, une mélopée en quelque sorte, qui accompagne le texte. C'est un moyen aussi de le retenir.
C'est ça. Vous alliez dire ressentir. C'est aussi ça.
Hein,
c'est
aussi
une émotion. On va marquer une pause et puis juste après la pause, peut-être le premier extrait que vous avez choisi, Hervé, et vous nous en parlerez après. Voilà. Tout de suite, le premier extrait d'Hervé Rotten. Quel est cet extrait?
Alors, c'est un extrait d'un album que nous avons publié parce que nous avons aussi une activité éditoriale de partition de disques. Et il s'agit donc de cet album qui s'intitule Mélodie hébraïque et c'est un extrait d'une danse qui s'appelle tout simplement Danse de Joachim Stutchevski. Et donc, extrait du CD Mélodie hébraïque interprété ici par la magnifique violoncelliste Sarah Yankou accompagnée de David Bismuth au piano. Et c'est un extrait très symbolique parce que c'est de la musique juive. Stutchevski l'a recueilli directement lors de missions qui ont été entreprises parce qu'il y a eu des missions ethnographiques. On a bien sûr des gens qui sont intéressés à ce patrimoine dès le début du XXe siècle et notamment en Russie. Mm-hmm. C'est la fameuse école de Saint-Pétersbourg qui ont été sur le terrain, qui ont collecté ces musiques. Et à partir de là, certains étaient compositeurs, les ont mises en musique. Mm-hmm. Donc on est déjà dans un second stade. C'est une musique populaire qui est réinterprétée de manière savante, bien sûr, parce que l'idée, c'était de créer à l'époque une musique nationale juive. On était dans l'idée de création d'une nation juive, en quelque sorte.
Début 20e. Donc, c'est de la musique qui date du 19e. On a récolté ces petits airs, ces petites mélodies, et on l'a rendue savante. Oh là là.
Voilà, tout à fait.
C'est ça, c'est très beau. Et qu'est-ce qui fait que, en écoutant les premières mesures, on se dit « Ah oui, c'est de la musique juive ».
Peut-être parce qu'on a envie de danser, tout simplement. Mais vous savez, dans ce cas-là, ça pourrait être auvergnat ou autre chose.
Oui.
Non, mais toutes les musiques juives ne sont pas forcément joyeuses. Au contraire, certaines ont la réputation de ne pas l'être. Mais il y a quelque chose, effectivement, une âme qui, c'est difficile à dire.
Est-ce qu'il existe un siècle d'or de la musique juive?
Alors, des siècles d'or, vous savez, alors le problème, il existe plusieurs siècles d'or, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de traces, finalement. C'est ça qui est difficile. Autant les textes religieux ont été fixés par écrit, autant la musique ne l'a pas été.
Ouais.
Puis l'enregistrement, comme vous le savez, ça date tout au plus justement de la fin du 19e, début 20e. Donc les rares traces qu'on a sont plutôt des traces du fin 19e et tout le 20e siècle. Auparavant, on a quelques traces, mais vraiment fugaces. Notamment, on a eu un épiphénomène en Italie à partir du 16e et du 17e siècle avec la musique juive baroque. Et là, on a donc, par exemple, un fameux compositeur Salomone Rossi, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui était compositeur de musique à la cour des ducs de Mantoue et qui a écrit de la musique à un moment parce qu'il s'est retrouvé lié à sa communauté. Il était aussi dans le ghetto de Venise. Et il a écrit la musique, son art, il l'a transmis aussi, vous voyez, une influence dans l'autre sens, de la cour, la musique de cour, vers la synagogue. Et c'est les premières traces qu'on a. On a avant une trace complètement épisodique au Moyen-Âge, mais c'est trois fois rien, c'est trouvé dans une guénisa. Puis après, on a presque rien entre le 16e, 17e siècle, enfin 18e siècle, qui a des traces comme ça, et souvent même pas écrites par des juifs, mais plutôt par des chrétiens. Et puis, il faut vraiment attendre l'émancipation pour trouver enfin des traces
fin 19e, début 20e. Voilà. Est-ce que, justement, vous parliez de ces influences, ces interactions, on peut dire, entre les différentes musiques ou les différentes cultures musicales la question, c'est de savoir, est-ce que, peut-être qu'il n'y aura pas de réponse, mais est-ce que c'est davantage la musique juive qui a influencé les autres musiques ou bien c'est davantage la musique juive qui a absorbé les cultures extérieures ?
Alors je dirais que c'est davantage la musique juive qui a absorbé les cultures extérieures. Tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays ou dans un endroit sans forcément être imprégné de sa culture.
Oui, à Rome comme un Romain.
Voilà, c'est tout. Donc forcément, partout où il y a des juifs, ils ont une musique, mais qui n'a pas été différente de celle des cultures environnantes. C'est pour ça qu'il y avait un film très bien qui avait été fait il y a quelques années qui montrait que, par exemple, en Turquie, le chantre pouvait chanter avec le razan, avec le muezzin. Ils utilisaient les mêmes modes, les mêmes makamats. Ils pouvaient chanter exactement, ils improvisaient ensemble. Les paroles étaient différentes. Il y en a un qui chantait en turc et l'autre en hébreu. Mais c'était d'ailleurs même pas en turc, mais peu importe. L'autre chantait en hébreu, mais surtout, ils avaient le même langage musical. Alors que ce razan de Turquie, vous ne l'aurez pas fait chanter avec un razan d'Europe de l'Est parce qu'ils n'utilisent pas du tout les mêmes échelles musicales.
Donc, ça n'est pas étonnant. Si on écoute de la musique d'Afrique, je pense à l'Afrique noire notamment, vous êtes vous-même ethnomusicologue. On va pouvoir trouver dans des musiques ancestrales africaines, par exemple, des airs qui vont nous rappeler de la musique juive. Ça peut arriver.
En Afrique, on a peu de traces parce qu'évidemment, il n'y a pas...
Ce sont des rythmes peut-être aussi.
Oui. Alors, l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de juifs qui sont installés en Afrique. Donc, c'est un peu différent.
Je prends justement l'Afrique parce que c'est très éloigné.
Mais non, mais ce qui est amusant, c'est qu'en Afrique, on a dans certaines contrées d'Afrique, des gens qui sont rapprochés du judaïsme qui ont dit qu'ils étaient issus des tribus perdues.
Oui.
Et ils font leur prière aujourd'hui complètement sur des rythmes et des mélodies africaines.
Complètement. Donc, ils ont absorbé la culture musicale environnementale et ils en ont fait de la musique juive pour le coup.
Ils l'ont non seulement absorbé mais ils l'ont surtout utilisé, c'est-à-dire que encore une fois, les textes sont figés mais les musiques ne le sont pas, donc les musiques on peut utiliser n'importe quelle musique pour supporter le texte sacré.
On va peut-être écouter le deuxième extrait que vous avez prévu pour cette émission et on en parlera juste après.
Thank you.
Voilà, là, de la musique juive, de la musique baroque. On a du mal à imaginer que c'est de la musique juive. Et pourtant...
Mais oui, mais c'est la musique de l'époque, donc justement du XVIIe siècle, XVIIIe siècle plus exactement ici, d'Italie. C'est un compositeur d'origine italienne qui s'appelle Lidarti, qui est l'auteur, d'ailleurs, qui n'était absolument pas juif. Il s'appelait justement Cristiano Giuseppe Lidarti.
Alors comment se fait-il que Alors, ce parce soit que c'est classé une... dans de la musique juive?
Parce que c'est une œuvre de comment... c'était en hébreu, vous l'avez entendu. Oui. Et en fait, ça s'appelle l'Oratorio d'Esther. Ça raconte l'histoire d'Esther, c'est Pourim. Mm-hmm. Ça encore, c'est une sacrée histoire, Pourim, parce que... Vous savez, les musiques juives ont la particularité qu'on ne peut pas les faire n'importe quand. Il y a des interdits religieux très forts, et notamment pour l'emploi d'instruments de musique. Mm-hmm. Alors là, si on s'embarque sur ce sujet, on en a pour des heures, mais bon.
Oui. Là, ce serait de la musique vraiment religieuse, dans ce cas-là. Ce n'est pas le cas pour toutes les musiques juives.
Non, bien entendu. Ouais. Et là, donc ici, on a des instruments de musique, donc ça ne pouvait pas être joué n'importe quand. Mais pour Pourim, on a le droit aux instruments de musique. Au contraire, c'est même recommandé. Donc certaines communautés ont commandé à des compositeurs non-juifs des drames de Pourim, des musiques pour accompagner donc la mise en scène de l'histoire d'Esther, qui était en quelque sorte le premier opéra juif de l'époque. Et là, on a la plus longue œuvre qui nous est parvenue. Elle dure presque 2 heures. C'est l'Oratorio d'Esther et c'est un extrait d'un disque que nous avons également publié, qui s'appelle Musique juive baroque.
Donc
vous
fortement,
trouver sur notre site.
Là, fortement, on a cette influence de la musique, du lieu de vie de ces communautés, et ça se passe de la même manière partout dans le monde. Ça veut dire que la musique séfarade a reçu aussi les mêmes influences de son lieu de création, en tout cas.
Absolument. Alors, à chaque fois, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a un lieu de création, et puis encore une fois, comme les traces se perdent, il y a un lieu de recréation.
Ah oui.
Alors on rentre dans une histoire vraiment encore plus compliquée, c'est que souvent, comme on n'a que des traces, les musiciens... Bon, là ici, on a une partition dans la musique juive baroque, mais si on parle des musiques séfarades et même parfois des musiques yiddish, on a des traces parfois qui sont extrêmement fugaces. Ça peut être des enregistrements, mais ça peut être juste quelques notes notées. Donc il faut recréer la chanson, recréer l'œuvre. Et donc on se réinvente un folklore, un patrimoine. Parfois.
C'est ça, parce que la musique, comme le juif errant, la musique était aussi errante. La musique juive est errante aussi. Et donc, elle va tirer des racines un petit peu partout.
Absolument. Et c'est en cela qu'elle est universelle, d'ailleurs.
Ouais. Et c'est en cela que c'est un langage de paix aussi, peut-être.
Absolument, hein. Absolument.
Faut peut-être le rappeler. Alors, quand vous parlez de ces musiques, Hervé, en disant que ces musiques juives sont donc des musiques qui ont été utilisées par les communautés juives, et donc c'est cela qui leur a donné finalement leur identité, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que de la musique est juive dès lors que son compositeur est juif? Non, vous venez de dire que là, non.
Non, on en a la preuve et on l'a à de nombreuses fois. Par exemple, tout le monde connaît le Kaddish de Ravel, cette œuvre magnifique qui est jouée dans tous les concerts de musique juive classique.
Ouais.
Bon, Ravel n'était pas juif, Ravel était certainement philosémite, mais il s'intéressait à toutes les musiques populaires et il avait écrit 3 mélodies hébraïques, dont ce fameux Kaddish. Mm-hmm. Donc c'est la preuve qu'on peut très bien ne pas être juif et écrire de la magnifique musique juive. Bon, le thème était, Ravel l'avait entendu dans une synagogue, donc c'était quand même, vous voyez, ça avait des racines juives.
Mais... Comment se fait-il Racontez-nous l'histoire de la tikva. Alors, la tikva qui est...
Il y en a pour des heures. Alors là, je vais vous renvoyer une émission que j'ai faite justement sur la tikva, les émissions musique juive.
C'est la Moldao.
C'est pas uniquement la Moldao, et dans lequel mon invité... donc Théa Hertz explique parfaitement les origines de cette mélodie, et vous pouvez trouver toutes ces émissions alors sur le site, bien sûr, en podcast de Judaïque FM, mais également sur le site de l'Institut Européen des Musiques Juives. Vous avez, je crois, les 69 ou 70 émissions que j'ai fait depuis le début, donc vous pouvez toutes les réécouter.
Là aussi, c'est beaucoup d'archives pour cette émission. Je rappelle que nous sommes en compagnie d'Hervé Rotten, qui est ethnomusicologue et directeur de l'Institut Européen des Musiques Juives. Nous parlons bien sûr de ces fameuses musiques juives. Hervé, vous pouvez le retrouver une fois par mois, c'est le mardi à 21h sur notre antenne. Et la prochaine émission, Hervé, le premier mardi.
C'est une bonne question, il faut que je vérifie, parce qu'avec les fêtes juives, il y a plein de mardis qui sautent.
C'était une question piège.
Et c'est au mois d'octobre, c'est pas au mois de septembre, il faut que je revérifie.
C'est au mois d'octobre, donc il faut se renseigner. Et on va marquer une pause dans un instant, on va revenir. Juste peut-être le temps de donner quelques rendez-vous. Est-ce que vous avez des rendez-vous, des événements à venir organiser par l'Institut européen des musiques juives?
Alors absolument. Alors déjà, pour se tenir informé, je recommande à tous nos auditrices et auditeurs d'aller sur le site dont je rappelle l'adresse, www.ie. www.mj.org. Vous pouvez vous inscrire à notre lettre d'info, c'est une lettre d'info hebdomadaire. Comme ça, vous êtes tenu au courant de tout. Vous pouvez vous désabonner à tout moment, ça, c'est pas un souci. Et donc, on annonce toutes les émissions de radio, les concerts et tout. Alors, pour en revenir au concert, il y a un autre grand événement, c'est notre concert de gala. Nous le faisons une fois par an. Ça a lieu le prochain, le dimanche 11 novembre. Donc, au lieu d'aller pour une fois sur les Champs-Élysées défiler, venez l'après-midi. C'est un voyage musical au sein des traditions juives. Vous aurez une première partie, notamment de musique marocaine, mais aussi algérienne, tunisienne, etc., avec Françoise Atlan et ses musiciens. Et en seconde partie, un chœur liturgique avec le chœur de la synagogue de l'Olive Copernic.
Donc, il y en aura pour tout le monde.
Pour tous les goûts.
Pour tous les goûts. On retiendra cette date le 11 novembre. Je redonne le numéro de téléphone 01 45 82 20 52. C'est l'Institut européen des musiques juives. J'ai la chair de poule, hein, Hervé. C'est une très belle musique.
Vous balancez, oui. Là, ça me fait vraiment plaisir. Oui, c'est magnifique. C'est donc le CD Variations Ladino, toujours de la collection des disques que nous publions. Donc, ouais. On peut le commander sur notre site internet et c'est interprété ici par Liat Cohen, une grande guitariste, avec les Parvarim, ces fameux chanteurs israéliens. C'est magnifique.
Avre
tu puerta será. Oh,
peut-être en concert bientôt, non?
Alors, ils ont déjà fait des concerts. Non, là, c'est pas prévu pour l'instant.
Enfin, mais vous nous le direz dans les émissions.
Bien sûr.
Alors, cette musique juive, j'imagine qu'elle évolue, tout le temps, hein, parce qu'elle a toujours, elle est sous influence finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire de la musique juive aujourd'hui ?
Alors, la musique juive aujourd'hui, elle est de plus en plus variée parce que, vous savez, on est dans un courant depuis un certain nombre d'années au niveau musical de ce qu'on appelle les musiques du monde, world music, les musiques de fusion, c'est-à-dire les styles se mélangent. Et en fait, la musique juive, c'était en quelque sorte, c'est pas la seule, mais c'était une des premières musiques du monde. Parce que finalement, quand on voit ce qui s'est passé depuis la nuit des temps, ça s'est toujours mélangé. Donc c'était déjà de la world, déjà de la fusion, enfin déjà tout ça. Un peu comme d'autres peuples d'ailleurs, les tziganes, enfin tous ces peuples qui ont été ce que j'appelle déterritorialisés, c'est-à-dire qui ont vécu en diaspora, ont forcément emprunté, mélangé leur musique et tout. Donc les musiques juives aujourd'hui, ça continue à se mêler, à se mélanger, sauf qu'on a de plus en plus des artistes ou des gens extérieurs aux communautés juives qui s'emparent de ce patrimoine musical, qui se le réapproprient.
Comme le klezmer par exemple.
Comme le klezmer, bien évidemment. Le klezmer aujourd'hui est joué majoritairement par des non-juifs. En France, vous avez des dizaines et des dizaines de klezmer non-juifs.
Ça veut dire que malgré les influences, malgré ces évolutions, l'essence même de la musique juive existe. Il y a une essence, il y a un fond originel qui ne bouge pas.
Alors, ça dépend comment vous écrivez une naissance.
Oui,
parce que, voilà, voilà. Parce que j'allais dire, la musique juive, il y a une naissance et puis il y a une renaissance,
ah,
en quelque
oui.
sorte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, sans arrêt, c'est un peu comme une solution chimique. Vous voyez, c'est en mouvement
ah, oui.
perpétuel. On est en train sans arrêt. Et à chaque fois, ça donne avec les mêmes éléments, on obtient des choses différentes. Et c'est ça qui est passionnant dans ces musiques. Pourquoi c'est des musiques qui attirent aujourd'hui? Et surtout les musiques, vous l'avez dit, instrumentales, comme on a entendu, ou klezmer, ou espagnol, parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. L'hébreu, c'est quand même une barrière pour beaucoup de groupes.
Mm-hmm.
C'est parce que c'est des musiques qui ont une dimension universelle. Tout le monde
peut se,
voilà, qui vous touche, parce qu'on y retrouve toujours une partie de soi-même.
Mmh.
On retrouve dans les musiques d'Europe de l'Est des airs balkaniques, des airs tziganes, des airs russes, des airs... Dans les musiques espagnoles, là, on retrouve bien sûr une Espagne un petit peu idéalisée. Dans les musiques orientales, on retrouve bien sûr aussi un petit peu les musiques des Mille et Une Nuits, en quelque sorte.
Oui,
vous voyez,
oui.
on trouve dans les musiques juives tout ce qu'on veut y trouver, en quelque
ouais.
sorte.
Donc aujourd'hui encore, et comme toujours, finalement, ça bouge, ça évolue. On imagine bien cette solution chimique, comme vous avez donné comme très belle image qui bouillonne. Parlons de ces juifs, puisqu'on parlait tout à l'heure des juifs errants. Donc, ils emmènent avec eux leur mélodie. Tous ces juifs qui ont quitté l'Europe à un moment donné, fin 19e, début 20e, qui sont partis vers un autre continent. C'est lointain, hein, les États-Unis. Et qui ont là-bas créé aussi d'autres musique. Ça, c'est de la musique juive ou pas? Moi, je pense à Broadway, tout simplement.
Oui, alors bien sûr. Alors ça, c'est un exemple qui revient souvent à Broadway. C'est,
oui.
c'est les juifs qui arrivent notamment donc de Russie, de Pologne, d'Europe de l'Est.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la musique juive ou pas?
C'est de la musique juive dans le sens où c'est une musique qui se mélange avec d'autres musiques et qui, à partir d'un fond populaire, d'un fond musical utilisé dans un contexte juif, va être décontextualisé pour donner un autre type de musique. Donc, ce n'est pas de la musique juive, Broadway, bien entendu, parce que sinon, on va dire tout le temps « Ah, mais les juifs, ils sont partout, ils croient qu'ils ont tout fait, etc. » Non.
Ouais.
Mais par contre, c'est un élément culturel qui, justement, est suffisamment malléable, suffisamment plastique pour pouvoir être utilisé dans toutes sortes de contexte.
Et pour s'adapter et... peut-être à toutes sortes de cultures.
Absolument, absolument.
Ouais, c'est une émotion adaptable.
Complètement. Vous savez, il y a une histoire très drôle qu'on raconte à propos de Gershwin. C'est
oui.
pas vrai du tout, mais...
Ah bon, vous, dommage.
Mais Gershwin, il habitait à New York et quand il a composé pour Gian Bess, ouais. vous savez, avec son fameux opéra où il y a l'air qui fait « It is not necessary, son... »
ouais.
Et un jour, il croise dans la rue hein, le rabbi de son coin et toute la journée, le rabbi lui dit « Ah, monsieur Gershwin, j'espère que je ne vous embête pas parce que nous, on vous composez magnifiquement et nous, on est sans arrêt en train de prier toute la journée, on doit quand même vous influencer, vous gêner dans votre prière.
Oui.
Il dit oui, quand vous priez toute la journée, et nanananananana, baruch ata Hashem, c'est exactement le même air que pour
Gambès. Dommage, c'est pas vrai cette chanson.
Non, il paraît que non, je sais pas, peut-être, ça pourrait être totalement vrai.
Mais en tout cas, quand je vous parle de Broadway, c'est qu'il y a aussi beaucoup de ces compositeurs, de ces musiciens juifs d'Europe qui sont arrivés aux États-Unis, qui ont composé des chansons, qui ont fait le tour du monde et qui ont des petites traces. Alors moi, vous connaissez... Oscar Hammerstein qui a composé My Favorite Things, mm-hmm. qui est devenu un air aussi jazz, hein, interprété mm-hmm. par John Coltrane. À l'intérieur, dans les paroles, il parle de Schnitzel, par exemple.
Oui,
hein.
oui,
donc,
bien sûr.
L'empreinte, elle est forte quand même.
Ah
là.
Ben, complètement, hein. complètement.
Bon, mais on dira que ce n'est pas quand même de la musique juive, mais c'est influencé par une émotion juive.
Et vous verrez qu'on peut faire plein de choses. C'est pour ça que peut-être si on écoute notre cinquième exemple directement, ça
oui.
sera formidable parce que vous allez voir l'influence américaine.
Eh bien, c'est ce qu'on va entendre. Le cinquième extrait.
Thank you.
Alors, qu'est-ce que c'est que cet extrait
Et ben, puisqu'on parlait de l'Amérique, là, on est en Amérique du Sud. C'est un mélange de musique juive avec les musiques d'Amérique du Sud. Et c'est les Cigarrios, le groupe de David El Chatran, qui mélange justement la musique klezmer avec tout ce qui est musique d'Amérique du Sud, dans la salsa, notamment.
Oui, et alors, qu'est-ce qui fait, finalement, dans cette musique juive, par exemple, qu'elle s'adapte très, très vite à des cultures environnantes et par là même, puisqu'on parlait des compositeurs juifs européens qui sont arrivés aux États-Unis, comment se fait-il qu'il y ait eu un lien, un rapprochement tellement fort avec le jazz des Noirs américains? On sait que les premiers orchestres étaient composés, les orchestres mixtes blancs-noirs, c'était composé justement de ces musiciens juifs.
Parce que justement, les délaissés, les rejetés se rassemblent entre eux, si vous voulez. Les Noirs, c'est comme les Juifs, c'est une diaspora en quelque sorte.
C'est de la musique complainte aussi, peut-être.
Oui, c'est-à-dire que c'est aussi une musique de survie quelque part. Hein. Il faut vivre, et puis vivre malgré tout, c'est quand même très motivant. Ça peut donner lieu à de la création musicale. Et c'est vrai que les Juifs et les Noirs se sont trouvés dans ces clubs de jazz. Et puis il y avait quelque chose dans le jazz qui était aussi très proche dans l'esprit des musiques juives, à la fois dans ce côté à la fois triste et ce côté dansant, si vous voulez, musique juive d'Europe de l'Est notamment. Donc c'est en ça.
La musique à fleur de peau.
Voilà, tout à fait.
Alors on va écouter, parce que ça passe très très vite, le dernier extrait, mais juste avant, si vous êtes une association, l'IEMJ, pour vous soutenir, on a toutes les infos sur le site.
Toutes les infos sur le site, vous allez, il y a un onglet qui s'appelle Nous soutenir, vous pouvez adhérer, vous pouvez faire du bénévolat aussi, on a besoin de bénévoles, vous pouvez bien évidemment nous faire des dons et venir à nos activités.
Merci Hervé Rotten. On donne juste le titre de ce dernier extrait, on va se quitter en musique.
Alors en fait, il s'agit de Sami El Maghrebi, donc là on finit d'aborder tout, cette fois-ci c'est vraiment le versant oriental, extrait d'un disque qui s'appelle Chanteur juif du Maroc, que nous n'avons pas publié mais que nous avons dans nos collections, et je ne sais pas si je vais bien prononcer le titre, c'est Mal Bibi Malou de Sami El Maghrebi.
C'est pas mal, je crois. Merci. Merci Hervé. Nous étions en compagnie d'Hervé Rotten, qui est directeur de l'Institut européen des musiques juives, et à très bientôt sur notre antenne. Au revoir.
À bientôt.
نومي حرم من الجفان في الليل نحلم بخيال يولي لي كيف زمان حبيبي ونفرح بوصاله